Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob.
Le blob, blob,
blob,
un blob sauvage.
Le blob, je sais pas.
Le blob.
Oui, oui, j'ai tout plein.
Et quoi, c'est réellement un organisme.
Le blob, extension du domaine des luttes
et des imaginaires.
Une émission de la Maison du Livre
en partenariat avec Zara ASBL et Radio Panique.
Émission numéro 3.
Le blob se nourrit de spores et de bactéries. Il perçoit leur présence grâce à des récepteurs sur sa membrane. Il sélectionne celles qui lui seront les plus profitables et les absorbe par phagocytose, en engouffrant littéralement cette nourriture dans sa membrane. Il rejettera ensuite les micro-éléments dont il n'a pas besoin, afin qu'ils soient capturés par les plantes. C'est un recycleur très utile.
En laboratoire, le blob est très facile à cultiver. On le nourrit de flocons d'avoine dont il raffole, bien qu'il lui soit incapable de les détecter si on ne les place pas en contact direct avec lui. Bien nourri, le blob peut doubler de volume en un seul jour.
Privé d'eau ou de nourriture, le blob passe sous forme de sclérote, une structure rigide et très sèche, un peu semblable à du lichen. Pendant cette dormance, il se régénère. Et pour le réveiller, il suffira de l'arroser d'un peu d'eau. Si vous vous occupez bien de votre blob, en veillant à l'endormir régulièrement, il vous accompagnera toute votre vie.
Le blob, c'est aussi le nom de l'émission qui raconte l'extension du domaine des luttes et des imaginaires. Pour ce troisième épisode, nous nous intéresserons à l'autonomie alimentaire, aux moyens de lutte et aux initiatives mises en place pour la défendre et l'atteindre, ainsi qu'aux enjeux sociétaux et écologiques de l'agriculture.
Avec nous, pour en parler aujourd'hui, Éléonore, coordinatrice de Agroécologie in Action, Olivia, coordinatrice de Rencontre des Continents, Catherine, militante au MAP. Mais avant de commencer, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Damien, de l'ONG Quinoa, qui nous parle des enjeux locaux et globaux de l'agriculture intensive, qui ne respecte ni les sols ni l'humain, à l'opposé d'une agriculture paysanne, qui produit une nourriture de qualité, respectueuse des personnes en charge de sa production, ainsi que de celles et ceux qui la consomment.
Je m'appelle Damien, je suis chargé de mobilisation et formateur dans l'ASBL Quinoa et je suis aussi activiste dans différents collectifs qui approchent surtout les thématiques de la souveraineté alimentaire et du climat, je dirais. Le point commun entre les différentes journées internationales de lutte paysanne qu'on a menées en Belgique, c'est chaque fois d'essayer de rattacher des enjeux plus globaux, mais de montrer comment ils s'incarnent en Belgique au niveau très local avec quelque chose de très palpable. Et ici à Framerie, on se rassemblera avec des collectifs citoyens qui sont mobilisés depuis longtemps contre une usine, projet d'énorme usine à frites, en fait, un produit surgelé dérivé de pommes de terre. Alors on pourrait se dire, la frite, c'est une image assez, je dirais, positive en Belgique, mais on est là face à une industrie qui a des impacts colossaux parce que ça pousse à produire plus de 16 fois la consommation belge. C'est la culture la plus gourmande en pesticides en Belgique. On est vraiment sur un cas typique d'abus de l'agro-industrie qui tente encore de s'étendre, et en plus, en installant une usine très polluante en termes d'odeur, de bruit, de rejet, à deux pas d'installation dans une zone relativement rurale. À deux pas, oui, des habitations, donc de ces riverains qui se mobilisent. Donc ici, il y a évidemment un enjeu local. Simplement, personne ne devrait avoir à subir de telles pollutions à côté de chez soi. Et en plus, ces usines sont connues pour avoir des conditions de travail déplorables. Je crois que plus de 10% des accidents dans toute l'industrie alimentaire ont lieu dans le secteur de la pomme de terre surgelée. Donc c'est colossal. Beaucoup de personnes victimes d'accidents attendent encore la justice. Donc il y a un enjeu social assez fort aussi. Et puis bon, les enjeux sur l'agriculture en Belgique sont évidemment très élevés parce que des acteurs comme Clarebout, donc l'entreprise qui veut ouvrir cette usine à Framerie, poussent pour augmenter encore évidemment la production de pommes de terre en Belgique. Et ce n'est pas de la pomme de terre bio et paysanne. Et justement, c'est une culture qui se fait au détriment d'une agriculture vivrière qui prend soin de ses productrices, des producteurs, de l'environnement, en fait de l'agriculture. Ce qui est utile, c'est une nécessité de l'avoir près de chez soi. Et malheureusement, cet enjeu de l'agriculture, enfin des projets industriels qui font pression sur les terres paysannes, sur les cultures paysannes, on ne le retrouve pas seulement en Belgique, on le retrouve dans le monde entier à différentes échelles. Le point commun aussi en termes d'action des différentes journées des luttes paysannes, c'est d'aller planter des pommes de terre sur un terrain qui a priori ne nous appartient pas, donc qui est menacé par le projet qu'on dénonce, qu'on tente d'empêcher. C'est une manière de rappeler que l'agriculture est l'affaire de toutes et tous. Parce que tout le monde, toutes les personnes qui viennent à cette action, et je crois que la spécificité, c'est d'avoir un public qui est très diversifié, participe à une action qui est malgré tout désobéissante, mais ça montre par cette plantation commune que l'agriculture n'est pas juste une affaire, ne peut pas juste être l'affaire de moins de 2% de la population, comme c'est le cas aujourd'hui en Belgique, et que ça nous concerne toutes et tous. Et aussi, la pomme de terre, particulièrement à Frameries, ça va être symbolique, parce qu'on amène et on impose une pomme de terre paysanne, durable, locale, qui nourrit les populations, contre cette pomme de terre vouée à être transformée en produit surgelé par des processus industriels extrêmement polluants et mauvais pour la santé même des travailleuses et des travailleurs de l'usine. Et des personnes, sans parler des personnes qui vont la consommer, parce que ça va directement à la restauration rapide et au supermarché. Donc, il y a vraiment ce côté de ensemble, on impose, on assume la conflictualité qu'il y a entre deux modèles d'agriculture dans le monde et certainement en Belgique. Eh bien, si on me donnait une patate magique qui réaliserait tous mes souhaits pour promouvoir l'agroécologie, l'agriculture paysanne en Belgique, j'avoue que j'aurais bien du mal à savoir par quoi commencer. Mais il y aurait un paquet de choses que je demanderais. Je pense que, quitte à avoir la patate magique en main, j'en profite un maximum parce que je crois à la magie de cette patate paysanne. Je lui demanderais une interdiction de tous les intrants chimiques qu'on met sur les champs, avec évidemment un accompagnement adéquat pour toutes les personnes qui vivent de l'agriculture et qui sont parfois contraintes d'utiliser ces intrants parce que voilà, on les a poussés à suivre ces modèles-là. Donc, surtout pas une politique qui se ferait au détriment des paysannes et des paysans. Une annulation de la dette des paysannes et des paysans, évidemment, immédiatement aussi. Limiter les prix de la terre pour que les jeunes qui souhaitent se lancer comme paysannes, comme paysans, puissent le faire sans s'endetter auprès d'organismes privés et se mettre la corde au cou. Des prix, déjà, ça peut paraître pas directement lié à la patate, mais des salaires justes pour toutes et tous, pour que tout le monde puisse vraiment avoir accès à une alimentation de qualité, parce qu'une alimentation de qualité, il n'y a pas moyen de... Il ne faut pas tourner autour du pot, ça coûte plus cher que ce qu'on trouve aujourd'hui en supermarché. Et si aujourd'hui, des personnes sont limitées à une mauvaise alimentation, ce n'est pas par manque d'éducation, c'est parce qu'ils ne savent simplement pas avoir accès à mieux. Donc ça, c'est une injustice énorme. Donc des meilleurs salaires pour toutes et tous, certainement pour les personnes qui vivent de l'agriculture aussi. C'est sûr que cette patate, je serais obligé de lui demander l'annulation immédiate des traités de libre-échange qui mettent l'agriculture dans... qui considèrent ça comme une marchandise qu'on peut s'échanger sur les marchés et dont les prix finissent par être tout à fait dépendants des spéculateurs sur les marchés financiers internationaux. Et puis, je demanderais une protection spéciale de la patate magique pour toutes les leaders paysannes et paysans qui sont assassinés, ou violentés ou menacés partout dans le monde.
On a cru que l'humanité était foutue. Mais dans un coin perdu, une communauté avait survécu. Ils avaient biné, gratté, semé le sol nu. Et grâce à leur labeur ardu, la fertilité était revenue. Cette oasis de paix avait aussi attiré des pillards décharnés et des mutants zombifiés. Alors pour se protéger, Seed City avait créé une unité d'élite, la Seed Force. Leurs seules armes, des graines.
Are you ready for this, boy? Seed Force, we are the last. Barriers, Seed Force, we are the last. Warriors, planète destroyée, mutants en pagaille. Sortez les pachoy, préparez les cisailles. Seed Force, we are the last. Barriers, Seed Force, we are the last. Warriors, des semences saines pour réparer les gènes. Fini la haine, on l'a soigné avec nos graines. Tous ces putains de zombies, ils ont bouffé trop de produits. Avant l'apocalypse, on était vrai, on l'avait bien dit. On a bâti City, semé des graines en série. Abandonner la monnaie, nous on dit oui à la vie. Je vais pousser les munitions, c'est ma mini mission. Missile, des petits marrons, t'en torpilles de cresson. Chez nous, pas de course à la F1. Tu ne trouveras ici que du bon grain. Bien gardé, d'anciennes variétés sont que sélectionnées pour leur qualité.
déjà utilisé par nos ancêtres. Les civilisations nous ont vu naître. Le combat de la survie nous a unis. Pas de répit, pas de dépit dans les prairies pour le persil et les épis. On récolte ce que l'on sème. Petit semis, je t'aime.
Comme disent les vieux sages, on devient ce que l'on mange. Cet individu étrange l'a appris à ses dépens et a maintenant rejoint nos rangs. Survivre en semant, voici notre commandement.
Nous venons d'écouter Seed Force, une chanson de Peng. C'est un groupe de rap bruxellois 100% bio qui, à travers sa musique, aborde les alternatives durables et l'écologie humaine. Place maintenant à notre table ronde et nous passons donc la parole à Olivia et Éléonore.
Merci.
Merci Mélanie.
Ouais, je ne sais pas ce que ça t'éveille, Éléonore, mais quand j'entends Damien parler, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a deux modèles d'agriculture, de travail avec la terre, et qui ne peuvent pas coexister, qui s'opposent en fait. Je ne sais pas ce que ça te fait.
En fait, la chose que j'aime le mieux, c'est quand il explique qu'il faut assumer cette conflictualité, ne pas chercher à tourner autour du pot. En fait, ces modèles sont irréconciliables. Et en fait, j'ai très envie de passer la parole du coup à Catherine, qui va être notre personne de terrain, qui va pouvoir témoigner de ce que tu vois, de ce que tu connais. Catherine, est-ce que tu veux te présenter en deux mots, juste si tu es... qui tu es, d'où tu viens, pour qu'on puisse savoir d'où tu parles?
En deux mots, paysanne, militante.
Merci Catherine.
Allez, juste un tout petit peu plus court, un tout petit peu plus long. Je suis petite fille de paysan et ça fait peut-être 30 ans que je milite aux côtés des paysans, des paysannes. D'abord près de chez moi et puis beaucoup plus loin avec la Via Campesina. Voilà.
Super, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Ouais. Avant de te poser une question, j'avais peut-être envie de proposer à Olivia de juste toi aussi te situer, te présenter en deux mots et je ferai pareil et on pourra se lancer.
Ouais, merci. Donc voilà, moi c'est Olivia, je coordonne une ASBL qui s'appelle Rencontre des Continents. Notre métier c'est de faire de l'éducation pour les adultes et de déconstruire ensemble le système qu'on estime non souhaitable et qu'on n'a pas envie qu'il continue à se reproduire de cette manière-là. Et notre porte d'entrée pour déconstruire le système avec nos publics, c'est notre assiette en jeu de vie, de survie au quotidien. Voilà. Et donc on espère avec eux reconstruire autre chose, d'autres imaginaires, d'autres possibles.
Merci,
et toi,
Olivia.
Éléonore.
Moi, je suis la coordinatrice du mouvement Agroecology in Action, qui regroupe 35 organisations autour de la transition des systèmes alimentaires et de l'agroécologie paysanne, et dont fait partie Rencontre des Continents, et dont fait partie le mouvement d'action paysanne notamment. Et je précise aussi que je suis une citadine qui ne sait pas faire pousser un radis, donc je ne serai pas la personne la plus pertinente pour répondre aux questions sur les enjeux paysans de culture. Mais pour le reste, peut-être. Alors du coup, Catherine, si ça te va, moi j'ai très envie en fait, de te poser la question quand on a entendu Damien sur l'opposition des modèles agricoles, sur la nécessité de pouvoir relocaliser notre alimentation, sur cette agriculture industrielle qui dénature nos sols, qui dépossède les paysans et les paysannes et qui est très questionnante du point de vue du modèle alimentaire que ça propose. Toi qui connais le terrain, qui vis, qui est ancré, est-ce que tu pourrais nous dresser un paysage des luttes paysannes passées, présentes et à venir?
C'est immense.
Ah mais oui, mais on s'est dit que c'était sympa de t'ouvrir grand les portes comme ça.
Les luttes paysannes, elles viennent depuis la nuit des temps. Je pense que depuis toujours, les paysans, en tout cas, celles et ceux qui veulent nourrir les autres, d'abord se nourrir et puis nourrir les autres, ont cette passion de transmettre. Non seulement de la nourriture, mais aussi des gestes très symboliques, de cultiver la terre, de lui permettre de nous nourrir au quotidien. Et donc, oui, ça vient d'il y a très longtemps. Ça s'est renforcé à l'après-guerre, quand tout le système a commencé à s'emballer avec la mécanisation. Et les premiers syndicats sont nés là aussi, même s'ils étaient déjà un peu présents avant.
Les syndicats paysans.
Oui, les syndicats paysans. Et puis ça s'est structuré au fil du temps avec plein de changements, avec des syndicats qui devenaient beaucoup plus tendance industrielle ou en tout cas productiviste, et puis d'autres qui étaient qui restaient quand même très en contact avec le terrain de celles et ceux qui n'avaient pas énormément de moyens, tant pour mécaniser que pour se battre finalement. Alors voilà, les choses ont évolué. Il faut rappeler que la Via Campesina, elle est née de tout ça, de la suite des révoltes que les plus petits agriculteurs, les vraiment paysans qui avaient un sens à donner à cette alimentation, à leur lutte, et puis se sont retrouvés à Mons. Et ils ont créé la Via Campesina. Il y avait déjà des réseaux qui vivaient et qui se battaient à gauche et à droite à travers le monde, et ils se sont retrouvés là-bas à Mons pour créer la Via Campesina. Et puis on a continué à se retrouver régulièrement en resserrant de plus en plus les liens. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. L'agriculture paysanne n'est plus quelque chose de tout à fait propre aux rêveurs ou de... Allez, de poétique, de champêtre, etc. C'est quelque chose de bien présent. Je pense que la société a enfin embrayé. Il y a le réchauffement climatique qui a bousculé un peu les choses. Là, maintenant, depuis plus d'un an, le Covid a encore bousculé d'autres choses dans nos quotidiens, à chacun. Et ces luttes commencent à prendre vraiment du sens. On est de plus en plus respectueux des autres. Et de la nourriture, on se rend compte qu'elle est vachement importante. Voilà. Comment je vois ça dans le futur? Il faut amplifier, et c'est là-dessus qu'on travaille. Amplifier les luttes, autant en amont qu'en aval de ce qu'on appelle la nourriture, l'alimentation. C'est tellement vaste.
Et quand tu parles de ces luttes présentes et à venir, est-ce que tu pourrais nous dresser un peu plus quels sont pour toi les enjeux fondamentaux de ces luttes? Pourquoi on se bat? Pourquoi on lutte aujourd'hui?
On se lutte pour ce que Damien a expliqué, pour que l'alimentation soit beaucoup plus respectueuse de la santé, à la fois de la terre, de l'environnement et de celles et ceux qui mangent, mais aussi de ceux qui travaillent pour la produire, cette alimentation. Donc lutte pour la terre, l'accès à la terre, pour des revenus décents, pour aussi une nourriture qui a à la fois du sens, mais aussi un prix abordable à tout le monde.
Et moi, j'avais envie de poser encore une petite question. Et du coup, de ta place, de là où toi tu te situes, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est d'être une femme en lutte? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à ça pour toi, en tout cas?
Oui, ça a quelque chose de particulier dans le sens où les femmes ont intrinsèquement le pouvoir et c'est dans leur gène, elles transmettent, elles portent. Et je trouve que dans les luttes paysannes, on retrouve de plus en plus de filles, enfin. Elles étaient déjà là autrefois, ma grand-mère et ma marraine ont lutté aussi. Avec une moins grande place laissée. Aujourd'hui, enfin, on a une place plus importante et voilà.
Eh bien, prenons-la, cette place, alors.
Prenons-la.
Smala, c'est une chouette histoire. Donc moi, je m'appelle Anaïs, j'ai lancé Smala avec ma compagne Art, qui est chef de cuisine, il y a bientôt 3 ans, en juillet 2018. Et donc, on a eu l'opportunité d'avoir un petit atelier traiteur à Saint-Gilles. Et donc, on s'est lancé en traiteur, on était principalement traiteur sur événements, privé, professionnel. On intègre du coup l'atelier en juillet, et puis au mois de novembre, on voit passer un appel à projet pour des terrains justement ici à Nerpède, des terrains pour s'installer en maraîchage. Et ce qui, la particularité de cet appel, c'était que c'était la première installation sur un terrain pour du long terme. Donc c'était pas sur un espace test de maraîchage, mais c'était vraiment l'opportunité d'avoir cette terre ou cultiver pendant plusieurs années. Art et Sophia se connaissent du coup à ce moment-là depuis 15 ans, quoi. Et moi, fatalement, depuis quelques années, depuis que je suis avec Art, je connais Sophia. On savait toutes les deux qu'elle voulait se lancer en maraîchage depuis un petit temps. Et Art, en tant que chef de cuisine, et puis moi, hyper sensibilisée par rapport à l'alimentation durable depuis plusieurs années, la target de notre projet culinaire, c'était quand même un jour de pouvoir être réellement du champ à l'assiette, mais pas en achetant à des producteurs, mais vraiment en cultivant et puis voilà, en pouvant vraiment être sûr du sourcing de nos produits et tout ça. Donc l'aventure démarre en janvier 2019. Donc Smala Cooking a 6 mois et on lance Smala Farming. On était très fort à dire cooking farming au début, et puis en fait maintenant Smala ne fait plus qu'un chouette projet du champ à l'assiette. On est du coup 3 à la tête de tout ça. Sophia qui est chef de culture, Art chef de cuisine, et puis moi chef de projet. L'appel à projet avait été lancé dans le cadre de Bourgogne Bruxelles Paysan, qui était toute la stratégie autour justement de l'agriculture. Et alors c'était aussi lié à la stratégie Good Food, qui est la grosse stratégie de Bruxelles pour l'alimentation durable. Leurs objectifs étaient quand même importants.
Ils voulaient arriver à 20 à 30% de fruits et légumes produits et vendus du coup sur la région ou dans les alentours proches. La stratégie Good Food est vraiment liée à toute la question de la souveraineté alimentaire, au fait que les légumes ou les productions belges ne sont pas consommées en Belgique. Et inversement, on importe beaucoup et on exporte nos produits. Et ici, vraiment, l'intention, c'est de produire et vendre à Bruxelles, au plus proche des gens. Notre collectif a un heureux hasard qui nous a réunis. En plus, on est aussi associé avec Emilia, qui est une quatrième femme qui cultive ici sur le champ. Donc c'est un projet 100% féminin. Ça peut permettre à d'autres femmes qui aimeraient se lancer dans ce genre d'aventure de voir que c'est possible et qu'elles ne se limitent pas par rapport à leur genre. On ne milite pas avec le fait d'être uniquement des femmes. Il y a pas mal de bénévoles masculins qui viennent. Ce n'est pas prévu d'en faire un outil, mais clairement, ça peut sensibiliser certaines personnes qui nous rencontrent au fait que tout est possible.
Je pense qu'on en est fiers quand même, est-ce qu'on n'est pas plus fiers de l'image que ça rend et du fait que les gens trouvent ça cool, qu'on gère le projet de A à Z à trois meufs? Et en même temps, est-ce que le projet serait différent si une de nous était un gars ou si on était 3 gars? Bah, peut-être, mais je pense que notre force et notre complémentarité, et qu'après on est 3 êtres humains, qu'on soit des hommes ou des femmes, finally, ça change pas grand-chose. On arrive avec notre trip, notre sensibilité, qui on est et nos caractères et notre force vraiment. Et là, à bientôt 3 ans de projet ensemble, c'est vraiment ça qui ressort, parce qu'on s'est pris le Covid dans la gueule. Enfin, on a eu quand même plein de galères. C'est aussi cette complémentarité qu'on a par rapport à nos compétences, à nos énergies. Et c'est vraiment ça qui est une force.
Mais moi, il y a quelque chose qui me gratte et qui me frotte, c'est cette dichotomie ville-campagne, où pour moi, c'est difficile de me dire qu'il y a une frontière claire et établie entre les deux espaces de vie, où commence l'un, où finit l'autre, à quel point ils sont interdépendants l'un de l'autre. Est-ce que l'un peut totalement s'affranchir de l'autre d'un point de vue d'autonomie et de résilience alimentaire? Voilà, c'est des vraies questions qui se posent, et je ne sais pas si, par exemple, Olivia, tu voulais déjà réagir rapidement.
Je me pose les mêmes questions que toi, en fait. Je me demande un peu comment ça se fait qu'on arrive à tellement cloisonner, en fait, les espaces, à tellement, tout cloisonner, à tout mettre en opposition. Notre monde, il n'est pas fermé. Il n'y a pas une frontière à la fin de la ville, et puis on doit se débrouiller à l'intérieur. J'avais un peu envie de retourner la question... vers toi, Catherine.
Comme un jeu de ping-pong.
Voilà, qui est plus, qui peut plus nous éclairer en fait grâce à ton expérience de terrain, et particulièrement, elle nous parle de cet objectif de produire 20 à 30% de l'alimentation pour les villes en ville, je me demande en fait qu'est-ce que toi t'en penses de cette espèce de résilience alimentaire citadine.
Attention, ce ne seront que des questions très ouvertes.
Je vais essayer de ne pas répondre en normand. Il ne faut pas se leurrer non plus. Il n'y a pas forcément beaucoup de terre en ville. Mm-hmm. Faire de la culture hors sol, ce n'est pas top. Et du coup, oui, il ne faut pas fermer. Il n'y a pas d'endroit fermé. On n'est pas dans les châteaux forts avec les manants à l'extérieur. Ce n'est pas ça du tout. Donc, continuer le lien un maximum pour permettre justement la résilience et continuer à être souverain de notre alimentation. Donc, pas forcément vouloir absolument produire en ville 20 à 30%. Je ne sais pas, je suis un peu sceptique. Maintenant, autour des villes, il reste des terres. Bon, notre mission aujourd'hui, une lutte, ce sera de veiller à ce qu'elle ne soit pas bétonnée.
Ça ou accaparée.
Oui, ou accaparée. Donc voilà, la terre, elle est là pour produire. Essayons de ne pas la gaspiller.
Merci. Oui, ça fait fort écho, du coup, avec ce que Damien nous partageait.
Tout à fait, oui.
Dans le cadre des luttes paysannes et de cette journée anniversaire du 17 avril. Ouais, où vraiment, là, on le voit dans la terre, cette opposition entre le modèle agro-industriel qui veut, qui ne sait pas qui veut, qui s'accapare, qui se donne le droit de disposer de cette terre qui ne lui appartient pas, en fait, pour y implanter une usine de production de frites surgelées. Je le dis et ça me fait mal aux tripes, quoi, pour les envoyer en Amérique latine où il y a plus de pommes de terre que partout ailleurs.
Ouais.
Et pour nous empêcher ici de cultiver de manière raisonnée et respectueuse les pommes de terre pour nourrir les personnes qui vivent ici.
Ouais.
Ça te fait quoi? Je ne sais pas, moi ça me... Enfin voilà, j'ai envie de savoir ce que ça te fait.
Moi ça me fait mal aux tripes depuis très longtemps, que ce soit par rapport à une usine de chips, patates ou n'importe quoi. Oui, ça me fait très mal aux tripes chaque fois qu'on implante. C'est pas seulement une usine, c'est tout un système qui s'implante à un endroit ou à un autre. C'est des gens qui sont exploités dans leur travail, dans leurs conditions de vie. Et puis après, c'est de la nourriture. Enfin, c'est plus de la nourriture, c'est des choses qui sortent empaquetées, emballées, etc. Et qui partent avec des camions ou des avions ou n'importe. Mais... Et qui vont déstabiliser d'autres économies ailleurs. Donc oui, ça me fait très mal aux tripes et ça, je continuerai. Je continuerai à lutter avec les autres.
Merci, luttons.
En t'écoutant, Catherine, je me faisais la réflexion, et peut-être que tu me contrediras, je ne sais pas. Parce que des paysans en ville, des paysans à la campagne, mais en fait, ce qui les réunit, est-ce que ce n'est pas prendre soin du bien commun? Est-ce que ce n'est pas une des définitions, des multiples définitions d'être paysan ou paysanne? Quand on parle des terres, bien commun, alimentation, bien commun, environnement, bien commun.
Oui, ça pourrait être ça aussi, oui. C'est ce qui nous réunit tous. J'en parle souvent, j'interpelle souvent avec notre slogan au MAP, je suis paysan, paysanne. Et quand j'essaye de distribuer et d'offrir cet autocollant qu'on a envie de voir un peu partout, les gens me disent mais je me sens pas digne de le porter, de l'afficher ni sur mon vélo ni sur ma voiture parce que je suis pas paysan. Et je leur réponds mais tu vas manger demain matin. Et donc manger c'est aussi un acte très politique, en fonction de ce que tu vas mettre dans ton assiette. On est tous paysans, c'est ça qui nous rejoint, qui nous réunit, qui nous lie, qui nous rejoint. On mange, on produit, on mange, on produit, et en mangeant, on produit aussi.
Donc potentiellement, on n'est pas une équipe de 11 millions de joueurs, mais une équipe de 11 millions de paysans potentiels.
Oui, tout à fait, oui. Yeah.
Et moi, j'avais envie de te demander quelque chose peut-être un peu plus personnel, Catherine, tu me diras si c'est OK. Je me demandais, en tant qu'héritière, en fait, un peu d'une tradition, d'une famille paysanne, comment tu te sens d'être aujourd'hui vraiment investie pour la souveraineté alimentaire, grâce à ce que tu as reçu et qu'est-ce que peut-être tu aurais envie de continuer à transmettre, forte de ce bagage, de tes racines en fait.
Je dois bien avouer que parfois ça me fait un peu peur, ou pas peur, le mot n'est pas bon. Oui, je me sens investie et quelque part un peu responsable du poids que j'ai mis moi-même sur mes épaules. Mes grands-parents n'ont pas mis du tout. Mais je me sens chargée de transmettre des choses et puis qu'elles aillent bien aussi.
Qu'elles aillent bien ?
Je veux dire, faire en sorte que ça se passe bien. Mm-hmm. En essayant de ne pas écraser à gauche ou à droite et en fonçant comme une bête. Oui, voilà, je me sens porteuse ou faiseuse de liens pour permettre qu'il y ait du respect par rapport au passé et donc à ces paysans et paysannes d'où on vient. On vient tous de là.
Je sens aussi une porteuse de soins dans ta manière d'amener la terre.
Oui, avec ici. Beaucoup de respect, parce qu'on est parfois en lutte vraiment beaucoup plus en termes de confrontation, des luttes beaucoup plus violentes avec... Quand on rencontre des agriculteurs très conventionnels qui foncent droit en écrasant les autres, faut pas être en lutte frontale comme ça. Mais je pense qu'ils sont tous en train de revoir un peu leur manière de fonctionner, leur manière de penser. Alors, ouais, ils sont dans un système et pas évident de le quitter. Moi, c'est cela qui m'intéresse le plus.
Accompagnons-les alors.
Oui, accompagnons-les et non-les. C'est pas évident pour eux.
Non. Merci.
Les Mondines, ce sont ces ouvrières qui travaillaient dans les rizières de la plaine du Pô au 19e et début du 20e siècle. Trimant plus de 10 heures par jour dans des conditions insupportables, elles ont lutté en chanson. Leur hymne, c'est Bella Ciao. Le matin, à peine levé, au Bella Ciao. Le matin, à peine levé, à la rizière, je dois aller. Et entre les insectes et les moustiques, oh Bella Ciao. Et entre les insectes et les moustiques, un dur labeur je dois faire. Le chef, debout avec son bâton, oh Bella Ciao. Le chef, debout avec son bâton, et nous, courbés à travailler. Oh bonne mère, quel tourment, oh Bella Ciao. Oh, bonne mère, quel tourment! Je t'invoque chaque jour et toutes les heures que nous passons ici. Oh, Bella Ciao! Et toutes les heures que nous passons ici, nous perdons notre jeunesse. Mais un jour viendra que tout autant que nous sommes, oh, Bella Ciao! Mais un jour viendra que tout autant que nous sommes, nous travaillerons en liberté. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les paroles de ce chant ont été réécrites. Et il est revendiqué par les révolutionnaires, notamment anarchistes et antifascistes.
Et probablement que cet homme a été ému, peut-être bouleversé, on ne sait pas, on ne saura jamais, ça c'est voilà, c'est mes hypothèses, par ce chant en fait, qui l'a touché en fait. Et qui s'est dit, purée, ce truc qui déboîte, genre c'est le tube des partisans.
Una mattina. Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir.
Un matin, je me suis réveillée, oh Bella Ciao. Un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé l'envahisseur. Eh, partisan, emmène-moi, oh Bella Ciao. Eh, partisan, emmène-moi, car j'ai bien peur de mourir. Et si je meurs en partisan, Oh, Bella Ciao. Et si je meurs en partisan, il faudra que tu m'enterres. Que tu m'enterres sur la montagne. Oh, Bella Ciao. Que tu m'enterres sur la montagne à l'ombre d'une belle fleur. Tous les gens qui passeront, oh, Bella Ciao. Et les gens qui passeront me diront, quelle belle fleur. C'est la fleur du partisan, oh, Bella Ciao. C'est la fleur du partisan mort pour la liberté.
Bella ciao, bella ciao, ciao ciao.
Qu'est-ce qu'on essaye de nous confisquer dans l'histoire?
En tout cas, c'est une question à se poser, quoi.
Bah, elle...
ça se trouve, on est à côté, on est pas, depuis tout le temps, on passe à côté d'un. Ouais, de, enfin, bon, déjà, le matrimoine, c'est quelque chose qui est assez récent, mais du coup, on passe à côté. Enfin, à travers cette œuvre qui est finalement plutôt un truc. Tu vois, quand on parle d'antifascistes, les antifascistes italiens, on pense à des hommes, en fait. Enfin, moi, je pense à des. Tu vois, à des bataillons d'hommes, le poing levé, tu vois. Y a, pour moi, dans mon imaginaire, il y a quelque chose de très masculin par rapport à cette chanson. Même dans les stades de foot, tu vois, il y a quelque chose qui, pour moi, finalement, cette puissance-là... Bah, je suis complètement un peu abasourdie, presque, par le grand écart entre ces paroles et puis... ce que j'ai en tout cas moi comme vision comme dans mon imaginaire par rapport à cette chanson qui est éminemment masculine comme représentation.
Mais je pense que dans l'imaginaire populaire elle a une représentation masculine, cette chanson.
Bah ouais,
D'ailleurs c'est pas pour rien que c'est au moment de la journée du 8 mars qu'a réémergé il y a quelques années le fait que c'était effectivement une chanson issue des mondines. D'ailleurs elle est revendiquée par des hommes, et c'est vrai qu'elle fait partie d'un, elle est reprise par les hommes pour les hommes.
En fait c'est ça, c'est pas une question de savoir qui a écrit les paroles non. De la chanson, enfin, on s'en fout, enfin, c'est pas ça le truc.
C'est ce que j'allais dire en fait, peu importe qui a écrit, la seule chose qu'on peut pointer par rapport à ça, c'est que la version d'Emondine n'est pas celle qui a été rendue populaire et celle qui a été effacée des mémoires. Et pour moi, c'est ça qui est en jeu. C'est qu'il y a probablement X versions de cette chanson, dont la version du partisan, voilà, parce que je pense que historiquement, il y a quelque chose, et que si un homme a revendiqué en avoir écrit les paroles, je vois pas pourquoi je mettrais sa parole en doute.
Oui, c'est ça.
Mais on n'a jamais beaucoup évoqué les paroles d'Emondine.
C'est ça. Et ça, c'est intéressant. Et finalement, au-delà de paroles, la musique, elle existe à travers une énergie, en fait. Et c'est ça aussi, du coup, finalement. On repart un peu sur l'origine de la question de l'intention, de ce besoin de chanter et de ce besoin de s'unir, en fait.
Oui, l'union par le chant. Qu'on retrouve énormément chez les féministes aujourd'hui et chez toutes celles qui se revendiquent sorcières, c'est que le chant occupe une place prépondérante dans la réappropriation de son pouvoir.
Et en plus, c'est terrible, mais ça existe du côté, j'ai envie de dire, du côté de la force de la lumière et de la force obscure aussi. Les chants nazis, etc. Enfin, tu vois, la galvanisation, tu sais. C'est vraiment ça. La galvanisation que, peu importe la cause, malheureusement... du chant et de cette espèce de... Hein, t'as une sorte d'ivresse, de frisson, parce que c'est des questions de fréquence, des questions de vibration. Quand un moment où tout le monde est traversé par ça, ben c'est fort, en fait. Ça te fait toucher, en fait. Ça te fait t'élever, en fait. C'est ça qui donne de la force, aussi. Et du coup, c'est vraiment... C'est deux choses différentes, en fait. C'est cette question, finalement, de cette énergie de revendication, peut-être. Qui est là, tu vois, par exemple, on pourrait se poser une question intéressante, c'est pourquoi, donc voilà, cette chanson Bella Ciao existe, elle est chantée par les mondines, mettons, le monsieur qui se revendique de l'écriture de Bella Ciao, on va dire version partisane, donc antifasciste, entend ce chant. Qu'est-ce qui l'a touché au point de ne pas réécrire une autre mélodie, une toute autre mélodie, mais d'utiliser cette mélodie-là pour en faire un chant des partisans. Ce qui est quand même...
Ça veut tout dire, hein. J'avais pas du tout pensé, mais c'est génial, évidemment.
Bah, moi non plus, mais c'est parce que, du coup, là, on détricote le truc. Et donc, tu te dis, voilà, pourquoi est-ce que le mec, il a pas tout, tu sais, composé une musique ou été voir un pote ou j'en sais rien, ou prendre autre chose. Pourquoi ça a été
Non, mais si on veut jouer à nous, aux partisanes, et à jouer aux féministes, on peut dire simplement qu'il a ressenti la puissance des femmes dans la mélodie.
En tout cas, il y a une puissance. Je sais pas comment on peut le formuler. Je sais pas, tu vois, pour pas être comme maladroite ou un peu trop... Juste de reconnaître... Ah ouais, donc voilà, c'est ça. Pour moi, ce qui me viendrait, c'est plutôt de reconnaître une puissance chez cette, dans cette mélodie créée par des femmes. Qu'en fait, un homme et une femme sont égalitairement puissants, en fait, dans ce qu'ils peuvent créer.
À la mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina. E le zanzare, oh bella ciao, bella ciao, 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 e fra gli insetti e le zanzare, un duro lavoro mi tocca far. Il capo in piedi, col suo bastone, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 il capo in piedi col suo bastone e noi pure per lavorare. Oh mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh mamma mia. Verrà un giorno che tutte quante, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ma verrà un giorno che tutte quante lavoreremo in libertà.
Vous êtes sur Radio Panique et vous écoutez le Blob.
Waouh! Je suis encore toute traversée de ce passage, avec un sentiment vraiment très fort de tout ce qui, comme une rivière, en fait, comme une transmission qui vient. Elles parlent dans leur chant, ces femmes, au départ, de la bonne mère, la terre, quoi, la Pachamama, qui vient de là. En fait, et puis du besoin d'être ensemble, comme vous disiez, de chanter, de s'unir, de faire jaillir leur puissance. Et ce qui m'a très très fort ému dans ce chant originaire, en fait, c'est le « et un jour nous travaillerons en liberté ». Cet affranchissement, en fait, de tous les dictats, du patriarcat, je le sens comme ça, donc je vous le dis comme ça.
On prend.
Il y a vraiment aussi un truc de... Ça revient sortir des oppositions, des systèmes de domination, tant sur la nature et la manière de la traiter, et du coup de traiter cette nature qui est en nous, de ne pas la voir comme séparée de nous, dans cette espèce de mythe moderne que la nature et la culture sont deux choses tout à fait distinctes, mais c'est quand même bien pratique pour pouvoir la dominer et l'utiliser je ne sais même pas pourquoi, du coup. ce besoin de s'unir, en fait, quand on parlait des sorcières et de l'union de la puissance par le chant de toutes ces partisanes et de la force que ce chant a été repris, en fait, par des partisans, et de rendre hommage de nouveau à cette rivière, à cette filiation d'où ça vient, de la terre, des femmes. Et donc, me,
me reste depuis qu'on parle de faire cette émission ensemble. Je disais ça à Éléonore tout à l'heure, il y a cette phrase qui revient sans arrêt, quoi. Ni la terre, ni les femmes. Et voilà, j'ai envie de crier ça avec vous aujourd'hui, quoi. Ni la terre, ni les femmes. Léo, t'as envie, hein?
Moi, je vais garder ça comme un mantra précieux. Un mantra précieux, et je vais demander à Catherine de le garder en tête aussi. Je sais que ça résonne. J'ai vu des grands yeux écouter attentivement la capsule précédente. Ni les femmes, ni la terre. Et en fait, j'avais très envie de te demander, voilà, qu'est-ce qui a fait, toi, dans ton histoire, qu'à un moment, est-ce que c'était de la colère, est-ce que c'était de l'impuissance, un sentiment d'impuissance, est-ce que c'était le besoin de pouvoir créer, de se mettre en mouvement? Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es lancée dans une aventure militante qui, en fait, est devenue partie intégrante de qui tu es? Et donc, voilà, t'inviter à parler peut-être de ta révolte située en tant que fille de paysan, investie dans une coopérative paysanne, militante au mouvement d'action paysanne. Qu'est-ce qui fait, d'où ça vient, cette envie de se mettre en mouvement pour changer les choses?
Il n'y a pas un moment, c'est pas un jour on se réveille comme ça et la veille c'était différent. Il y a plein de petits moments, il y a plein de petites gouttes qui font qu'un jour ça déborde, mais ça déborde tout doucement, de plus en plus fort. Ça remonte à l'enfance, où j'ai été fort présente sur la ferme de mes grands-parents, et de voir cette douceur de vivre, cette tranquillité finalement. Mon parrain m'a toujours dit, moi j'ai fait en fonction de mes deux mains, j'ai jamais voulu aller plus loin parce que ça ne sert à rien. Y a plein de phrases qui me sont restées et ces deux mains, parfois, elles ne suffisaient pas. Et donc, oui, il aurait pu acheter un tracteur plus gros, plus fort. Il ne l'a pas fait. Et je me souviens, ça m'a vraiment marqué. On était venus l'aider pour les foins et puis on repartait avec mes parents et ma sœur. Et on le voit de loin, tout seul sur son petit tracteur et le tracteur était coincé. Et donc, l'avant du tracteur se soulevait parce qu'il n'arrivait plus à avancer. Et tu vois, même s'il avait la volonté de faire avec ses deux mains, il aurait fallu un plus gros tracteur. Et là, ça commençait à me réveiller. J'ai retrouvé cette image-là beaucoup plus tard, alors que moi-même, j'avais un enfant. Et un matin, comme ça, petit matin de printemps, je croise un très gros tracteur qui est en train de labourer avec cette huit socs et lui aussi il était coincé dans la terre et c'est pas possible qu'ils sont tous coincés comme ça, et c'est très symbolique en même temps, et puis il y avait les choses de la vie qui faisaient que ces paysans que je rencontrais, je les sentais très malhabiles et ils ne savaient pas s'exprimer ou ils ne savaient pas aller. Je les ai vus rarement monter à Bruxelles pour les manifs. Hein. Je me suis dit qu'il fallait les aider, être leur porte-parole, essayer de transmettre ce qu'ils avaient. Et puis, en voyant qu'ils étaient en train tous de disparaître, oui. Ça, c'est surtout ça qui m'a motivée. Ne pas laisser perdre, ne pas abandonner cette lutte qu'eux avaient commencée pour eux, pour leur famille, pour les voisins, pour les gens qu'ils nourrissaient. Ça, c'était vachement important que ça ne se perde pas. Et au travers d'eux, les valeurs qu'ils m'ont laissées, l'importance de respecter les animaux, de respecter la terre, de produire de la nourriture, qu'on soit fier, qu'on mange soi-même, et qu'on soit fier de donner, d'offrir aux voisins et aux autres plus loin. Voilà, donc beaucoup de respect par rapport à tout ça et l'envie de faire durer, d'aller plus loin, plus loin.
Une passeuse et une tisseuse de liens.
Oui, 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 cette envie très fort. Tissons, tissons.
Mais peut-être... pourrait tisser des liens un peu plus loin alors que la Belgique. Parce que du coup, toi, tu as une expérience au sein, tu nous en as parlé, du syndicat de la Via Campesina, où tu as eu l'occasion de rencontrer notamment des femmes paysannes du Sud, et aussi des hommes, bien sûr. Mais ça m'intéressait de voir aussi le point de vue des luttes paysannes du point de vue des femmes du Sud. Et pour le faire, pour te réancrer là-dedans, je pense que Olivia a une proposition musicale.
Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y semilla, y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y semilla, está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece.
Wow. Merci Olivia. Et tu peux nous dire d'où vient ce chant ?
Oui, en fait, c'est un chant très cher à mon cœur qui vient du nord de l'Argentine, voilà, qui vient des personnes qui sont en lutte pour le droit à la terre et qui m'a été transmis par Camilo et Manon, que je remercie aussi.
Merci, Olivia. Est-ce que ça t'a réancré ?
Oui, oui.
Ouais. Merci pour ce cadeau, Olivia. Pour laisser le temps à Olivia de reprendre son souffle. Ma question, juste pour toi, comme un miroir, toi qui as rencontré ces femmes paysannes dans le Sud, qu'est-ce que tu as envie de nous renvoyer des échanges que tu as pu avoir avec elles ? Qu'est-ce qu'elles t'ont transmis, qu'on puisse faire écho jusqu'ici ?
Elles m'ont transmis beaucoup plus de militance, de lutte qu'ici, justement. Dans les pays du Sud... les femmes sont beaucoup plus brimées aujourd'hui et hier déjà que nous ici. On se pose souvent la question entre paysannes ici, bah, pff, oui, aller lutter en tant que féministe paysanne, est-ce que c'est vraiment important ici ? Est-ce qu'on est vraiment brimé ici ? Est-ce que on n'a pas autre chose à faire ? Le plus important. Et quand je les croise, ça ravive des choses là, au milieu, dans les tripes.
Celle dont on parlait tout à l'heure, tu
oui,
veux dire.
parce que s'il y a des sœurs qui sont brimées quelque part, violées, exploitées, on doit pouvoir en parler ici et se mobiliser ici pour elles. C'est en se mobilisant un peu partout à travers le monde qu'elles pourront un jour lever un peu plus haut la tête et trouver, comme elles le disent dans Bella Ciao, elles trouver la liberté, une vraie liberté.
Merci Catherine. Est-ce que on se lance ?
On se lance ?
Ok.
On avait envie, pour terminer, de vous lire un texte qui a été traduit de l'anglais par Emily Ash dans son magnifique recueil de textes écoféministes, Reclaim, qui est un texte de Susan Sachs, qui s'appelle Une question stupide, et qui a été écrit pour répondre à l'agent du FBI qui enquêtait sur une sœur de lutte, et qui lui demanda qui fait partie de son réseau. Qui fait partie de mon réseau ? Qu'est-ce qui nous lie ? Précisément. Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires.
Qui guide le lombric sous la terre et rend les fourmis aussi têtues et obstinées?
Quand le vent et la pluie érodent le sol, qui pousse la racine à résister? Et quelle main invisible a inscrit son message codé dans la graine?
Qui dirige la toile de l'araignée et organise la stratégie de la mauvaise herbe?
Quelle imagination a pu inventer l'infrastructure de la vigne, la révolte de l'herbe contre le ciment, la rébellion du pissenlit?
Quelle force ébranle les murs jusqu'à les fissurer ou fait repousser les branches des arbres lorsqu'elles ont été coupées?
Qui dissimule les passages entre la mort et la naissance?
Qui mène la révolution de la terre?
Qui fait partie de mon réseau? Qu'est-ce qui nous lie précisément? Autant chercher à comprendre la force qui pousse le cours d'eau à travers la roche, qui relie les semblables et fait s'attirer les contraires. Enquêter sur les marguerites qui envahissent les pelouses ou sur le lierre qui pénètre partout où il le désire. Accuser le ciel d'avoir fait tomber la pluie et contribuer au débordement de la rivière.
Arrêter la mouette pour un vol illégal, décréter une frontière pour enfermer la mer, demander à une montagne de modifier son altitude, essayer d'empêcher une femme libre de s'exprimer.
Avant de nous quitter, Mélanie, d'abord un tout grand merci pour cette joyeuse collaboration.
Alors merci Jody, je te remercie aussi, ce fut un plaisir réellement partagé.
Et nous tenions à adresser un immense merci à toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette aventure radiophonique possible. Notre collègue Christian, à la technique, à Radio Panique, et puis tout particulièrement à toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui et qui ont interrompu leurs vacances pour être des nôtres, donc Éléonore, Olivia, Catherine, Noé et Thibault. La Maison du Livre, c'est aussi Pierre et Mathieu, précieux soutien à la construction de cette émission. Rendez-vous dans un mois pour notre 4e épisode autour des enjeux de la langue et de son renouvellement. Et pour se dire au revoir, mettons-nous encore un peu de tambour chamanique dans les oreilles.
Alors l'idée maintenant, c'est de chanter ensemble un chant pour les femmes fières qui sont filles de la terre. Donc à nous. Je suis femme fière, fille de la terre. 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 Fille de l'eau comme la rivière, fille de l'air, porteuse de mystère. Du feu, ivre de lumière, fière, fille de la terre. Je suis femme 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 fière, fille de la terre. Fille de l'eau. Fière fille de la terre, fière fille de la terre.